Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Deuxième journée de grève massive contre la réforme des retraites. Député Renaissance de la première circonscription de Moselle, Belkir Belhaddad nous dira pourquoi cette réforme des retraites est selon lui nécessaire. Rencontre aujourd'hui entre le chef de la diplomatie américaine et le président palestinien. Une rencontre dans le sillage de la décision de l'autorité palestinienne de mettre fin à sa coopération sécuritaire avec Israël en représailles au raid israélien meurtrier jeudi dernier à Jenin. Le second tour dimanche des élections législatives en Tunisie, marquée par une faible participation, un taux provisoire de 11,3%. Nous y reviendrons avec le président d'État Katol, l'ex-ministre Khalil Zaouia. Il reviendra aussi sur la situation économique et sociale aujourd'hui en Tunisie. Deux ministres tunisiens ont été limogés, les ministres de l'Agriculture et de l'Éducation. Le bilan s'est alourdi au lendemain d'un attentat dans une mosquée de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Au moins 89 personnes ont été tuées, 150 blessées. Nouvelle journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites dont l'examen a débuté hier à l'Assemblée nationale. Outre la fermeture de certaines écoles, de grosses perturbations ont lieu dans les transports. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus dans les rues de la France entière. Député Renaissance de la première circonscription de la Moselle, Belkir Belhaddad, revient sur cette mobilisation qu'il qualifie de légitime, même s'il soutient cette réforme des retraites. Entretien avec Belkir Belhaddad.
C'est la démocratie qui s'exprime. Les syndicats ont tout à fait le droit et la légitimité de pouvoir le faire et quelque part de nous interpeller sur ce qui ne leur convient pas dans le projet. Je crois que la démocratie sociale a toute sa place dans notre société. Malgré tout, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans une démocratie représentative et que notre travail en tant que parlementaire, en tant que député, c'est aussi d'amender et d'enrichir les propositions qui sont faites par l'exécutif, par le gouvernement, pour prendre en compte les desiderata des uns et des autres. On a eu l'occasion, en tant que parlementaire, d'échanger à de très très nombreuses reprises avec les syndicats sur de nombreuses propositions, dont certaines d'entre elles feront l'objet d'amendements de notre part, comme tout le travail de concertation qui a été fait avec le gouvernement ces derniers mois, avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les syndicats.
Quelles sont les propositions des syndicats qui feront l'objet d'amendements de la part des députés de la majorité?
On aura notamment plusieurs amendements, notamment sur, par exemple, l'index sur l'emploi des seniors. Avec, vous savez, le fameux seuil des 300 entreprises qui va malheureusement nous concerner qu'une partie d'entre eux. Nous espérons faire modifier ce seuil-là, par exemple, pour faire en sorte que un maximum d'entreprises puissent être concernées assez rapidement par l'emploi des seniors. Même si nous avons fait collectivement des efforts ces dernières années, on reste quand même un peu à la traîne par rapport à d'autres pays sur cette question de l'emploi des seniors. L'idée, c'est aussi de renforcer les sanctions à l'égard d'entreprises qui ne respecteraient pas la mise en place de cet index. Donc les débats parlementaires vont nous permettre de pouvoir aussi modifier ce curseur. Voilà, c'est une des propositions, par exemple, mais sur la question de la pénibilité ou de l'usure professionnelle concernant certains critères pour pouvoir intégrer un maximum de métiers dont l'usure professionnelle est extrêmement pénalisante et qui oblige un certain nombre d'entre eux de ne pas pouvoir justement faire une carrière plus ou moins longue.
Et lorsque vous êtes interpellé en tant que député par des opposants à cette réforme, que leur répondez-vous? Quel type d'argument mettez-vous en avant?
D'abord, l'argument premier, il est démographique. Il est incontestable. Vous savez que j'ai fait partie du Conseil d'orientation des retraites pendant plusieurs années. On a longuement échangé avec les syndicats sur ce sujet et le constat est que notre modèle de répartition par retraite est basé essentiellement sur l'intergénérationnel, sur la solidarité entre les actifs et nos retraités. Et celui-là, il est démographiquement très défavorable. Aujourd'hui, on avait 4 cotisants, 4 actifs pour un retraité il y a une cinquantaine d'années. On n'en a plus qu'aujourd'hui 1,7 et 1,4 dans quelques quelques années. Donc, et ça, automatiquement, mécaniquement, ça posera des problèmes de financement si on ne change pas d'autres paramètres et si on ne trouve pas d'autres solutions. La question de l'âge en est une. Voilà, et on n'a pas voulu utiliser d'autres moyens, comme celle de l'augmentation des cotisations, qui rend suggérer le coût du travail, ou la diminution des pensions. Je crois que nous, les Français, ne veulent pas d'une diminution de pension. Au contraire, le minimum contributif, par exemple, le minimum de pension qu'on souhaite mettre au niveau des 1 200 euros, est aussi une très belle avancée. On sait, c'est un des arguments forts de cette réforme. Et donc ça, il faut pouvoir aussi le financer, parce qu'on sait que beaucoup de nos concitoyens ont vraiment des petites retraites, et notamment les femmes qui ont des carrières hachées. On a aussi des dispositions concernant les jours professionnels, concernant l'emploi salarié avec la mise en place d'un index et de sanctions envers les entreprises qui ne respecteraient pas cet index. Nous souhaitons l'élargir à le grand nombre d'entreprises possibles, y compris les petites. Voilà, ce sont un certain nombre de dispositions qui permettent d'avoir un système beaucoup plus juste et de compenser notamment des carrières hachées de nos concitoyens, avec une mesure importante qui est celle effectivement de l'âge, pour éviter notamment de devoir augmenter les cotisations ou de diminuer les pensions de nos concitoyens pour financer l'équilibre du système d'ici à 2030.
Et alors que le message du gouvernement a du mal à passer aujourd'hui, est-ce que vous craignez un blocage du pays face à la montée de la colère face à cette réforme?
Écoutez, moi je rencontre à la fois des personnes qui sont effectivement à juste titre inquiètes et d'autres qui sont totalement contre, mais je rencontre aussi des personnes qui souhaitent absolument qu'on aille au terme de cette réforme qui est absolument nécessaire. Voilà, donc on doit continuer à avoir ce temps d'échange avec nos concitoyens et que cette colère ou cette inquiétude puisse aussi se transformer en disposition qui permet de prendre en compte cette colère ou cette inquiétude. Vous savez, c'est pas populaire de réformer les retraites, ça l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Je crois qu'il faut avoir du courage politique d'aller jusqu'au bout et de continuer le travail de pédagogie que nous faisons. Et je pars du principe qu'à partir du moment où le projet est globalement plutôt équilibré, je crois pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche en votant le projet de réforme, à partir du moment où il est suffisamment équilibré.
Belkhir Belhadad, député Renaissance de la première circonscription de la Moselle. La mobilisation est particulièrement forte aujourd'hui dans les raffineries et les dépôts de carburant de Total Energy. Il compte 75 à 100% de grévistes à l'occasion de cette nouvelle grève contre la réforme des retraites. Du côté de l'éducation, il y a 55% de grévistes selon les syndicats, 25% d'après le ministère de l'Éducation nationale. Rencontre aujourd'hui entre le chef de la diplomatie américaine et le président palestinien. Une rencontre dans le sillage de la décision de l'autorité palestinienne de mettre fin à sa coopération sécuritaire avec Israël en représailles au raid israélien meurtrier jeudi dernier à Jenin. Anthony Blinken se rend en Cisjordanie occupée au lendemain d'un déplacement en Israël. Arrivé lundi en provenance du Caire, le secrétaire d'État américain a pressé Israéliens et Palestiniens à agir urgemment pour restaurer le calme sur fond de fortes dégradations sécuritaires. Deux ministres tunisiens ont été limogés, les ministres de l'Agriculture et de l'Éducation. Mohamed Ali Bougridi remplace Fethi Selaouti à l'éducation et Abdelmoumen Belati succède à Elias Hamza. Début janvier, le président Kais Saied avait déjà limogé la ministre du Commerce et le gouverneur de Sfax. Ces nouveaux limogeages interviennent dans un contexte de tensions politiques. Le second tour dimanche des élections législatives en Tunisie a été marqué par une faible participation. Le président de l'autorité électorale, Lizi, a annoncé un taux provisoire de 11,3%. La participation, qui était le principal enjeu du scrutin après une abstention de quasi 90% au premier tour le 17 décembre dernier. Nous y revenons avec le président d'État Katol, l'ancien ministre des Affaires sociales, Khalil Zaouia.
Cette faible participation était attendue d'abord, puisque le premier tour était aussi faible. Cette fois-ci, la campagne de boycott a donné de l'effet. La plus grande partie des partis politiques et du tissu associatif a appelé au boycott et même a annulé carrément les élections. Ça a eu un effet sur les électeurs. Deuxièmement, une partie des électeurs qui adhéraient plus ou moins au projet de Kais Saied sont déçus et constatent que le projet n'est pas à la hauteur de leur espérance et surtout que la situation économique et sociale dans le pays est gravissime. Donc les gens ont la tête ailleurs. Et ceci d'autant plus que la nouvelle constitution ne donne que très peu de prérogatives à l'Assemblée des députés et donc les gens ne voient pas pourquoi il faut aller voter, d'autant plus que tous les pouvoirs sont détenus par Kais Saied. Donc tous ces facteurs ont fait que le Tunisien a préféré rester chez lui à hauteur de 90% des électeurs.
Ces élections législatives, il s'agissait là de la dernière étape de l'ensemble des réformes mises en œuvre par le président Kais Saied pour instaurer un régime ultra-présidentiel.
En principe, la nouvelle constitution prévoit deux chambres. Une chambre des députés élus au suffrage direct, et une deuxième chambre qui s'appelle la Chambre des régions, qui figure dans la Constitution, mais dont on ne connaît pas jusqu'à maintenant le texte et la manière dont elle va être élue, instaurée. Est-ce que c'est comme un Sénat, un suffrage indirect, ou est-ce qu'il va y avoir des élections régionales? Donc on ne sait absolument pas, il n'y a aucun texte. Et alors que dans la Constitution, elle a un rôle très important. Par exemple, le budget de l'État ne peut être adopté que si les deux chambres le valident. Donc là, on est encore dans un flou. Donc il n'y a rien qui organise. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de date, il n'y a pas de processus. On est encore dans le flou, ce qui aggrave encore plus la désaffection des électeurs.
Cela dans un contexte économique particulièrement difficile. Qu'en est-il aujourd'hui des pénuries de produits de base dans le pays? Est-ce que la Tunisie vit encore ce type de pénurie?
Oui, mais c'est des pénuries fluctuantes. C'est essentiellement le lait, où il y a une pénurie réelle. C'est aussi l'huile de consommation courante qu'on utilise pour la cuisine, qui est aussi en manque. Le sucre, parfois. Le sucre, c'est fluctuant parce que c'est en fonction de l'importation. On a eu une période où il y a eu un manque en tout ce qui concerne pâtes alimentaires parce qu'il semblerait qu'on ait baissé les importations de blé. Voilà, et puis le café, c'est fluctuant. Mais essentiellement, maintenant, les gens ressentent que le lait est en manque permanent. C'est-à-dire que les commerces, maintenant, ne vendent plus le lait par pack, mais donne juste 2 paquets de lait, donc 2 litres de lait par personne qui vient acheter. Donc ça c'est vraiment ressenti.
Quelle est la cause de ces pénuries?
C'est variable en fonction du produit. Par exemple, pour le lait, toute la filière laitière a été frappée par les mesures qui sont prises par le gouvernement. Il y a une augmentation du coût de la production, et notamment tout ce qui est fourrage, tout ce qui est alimentation du bétail. Et cela a abouti à ce que les producteurs, les petits producteurs, ne trouvent plus leur compte. Ils ont demandé à ce que le prix soit augmenté, puisque ce sont des produits qui sont régentés par l'État. Le prix est déterminé par l'État. Et donc, il y a une baisse de la production. Et puis, nos vaches laitières se sont vendues en Algérie. Hein. Il y a une exfiltration de nos vaches laitières vers l'Algérie où elles sont achetées. Et donc, si la production à la base baisse, bien sûr, par la suite, la quantité de produits finis diminue. Donc ça, c'est un exemple. Le café, c'est dû à l'importation. On ne produit pas de café en Tunisie. Donc c'est l'Office de commerce tunisien qui a l'exclusivité de l'importation du café et donc qui parfois a des difficultés financières et donc il n'arrive pas à importer du café. Et la même chose pour le sucre. On a eu ce genre de problème. Pour les pâtes aussi, donc c'est variable, mais c'est généralement dû à des difficultés financières de l'État tunisien.
Et où en sont aujourd'hui les discussions entre la Tunisie et le Fonds monétaire international qui est censé accorder un prêt à la Tunisie?
On est dans le flou le plus total, c'est-à-dire que la date où il devait avoir un accord, c'était fin décembre. Ça a été, semble-t-il, reporté à fin mars. Bon, certains disent que c'est un report programmé. Bon, aucun Tunisien n'y croit. C'est-à-dire que le dossier qui aurait été préparé au mois de décembre n'était plus valable. Et donc maintenant, il est reporté fin mars. Ce n'est pas sûr. Il faut que le dossier soit travaillé encore. Nous venons de subir encore un autre coup par l'agence Moody's concernant la réserve en devise. Et ça, c'est très important puisque nous payons nos importations en devise. Et puis, les crédits qu'on a auprès des associations internationales doivent être payés en grande partie en devise. Et donc, on a été rétrocédés encore une fois. Et nous sommes à l'avant-dernier avec perspective négative. C'est AA plus, donc c'est l'avant-dernière étape avant d'annoncer que la Tunisie aura des difficultés majeures pour payer ses dettes à l'étranger en devise. Donc ça complique encore plus le dossier avec le FMI. Maintenant, l'État tunisien présente les prémices d'insolvabilité de ses crédits. Donc ça aggrave les exigences du FMI. Où est-ce qu'on va y aller? On n'en sait rien. Et ceci dit, le crédit du FMI ne va pas financer, il financera une petite partie des besoins de l'État tunisien. Il faudrait, après le FMI, aller vers les associations internationales ou vers les relations bilatérales avec le gouvernement pour obtenir des crédits qui sont très importants cette année. On a besoin de 23 000 millions de dinars de crédits pour financer le budget de l'année en cours. Ce qui ne s'est jamais fait en Tunisie, c'est une somme phénoménale.
Concernant les pénuries que vous évoquiez, est-ce que les Tunisiens commencent à faire des stocks 2 mois avant le début du mois de Ramadan ?
Certains, mais c'est pas, on n'est pas en train de voir une ruée vers les grandes surfaces, pas encore. Bon, Ramadan, c'est dans un peu moins que 2 mois, donc c'est encore loin. S'il va y avoir une ruée pour faire des stocks, ça va être à partir de début mars. Donc peut-être que certains commerçants sont en train de faire des stocks. Ceci dit, tout le monde le dit, même les responsables dans tous les secteurs. Habituellement, l'État fait des stocks en prévision de Ramadan, où il y a une augmentation de la consommation. Mais cette année, il n'y a plus de stocks, il n'y a plus de réserves. Donc le mois de Ramadan va être difficile. Certainement qu'il va y avoir une pénurie importante par rapport à la demande.
Le président d'État Katol, ex-ministre tunisien des Affaires sociales, Khalil Zaouia. Le bilan s'est alourdi au lendemain d'un attentat dans une mosquée de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. Au moins 89 personnes ont été tuées, 150 blessées. L'explosion s'est produite hier à l'heure de la prière. La mosquée visée est située à l'intérieur du quartier général de la police. La plupart des victimes sont des policiers. Le pape François entame une tournée en Afrique, une visite de 4 jours en République démocratique du Congo. En proie à des violences endémiques, avant de terminer son voyage par 2 jours au Soudan du Sud. Initialement prévue en juillet dernier, cette visite avait été reportée pour des raisons de santé. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Daniel Simonet, député de Paris, membre de la France Insoumise, émission présentée par Loïc Barrière. Il est 18h18. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.